Aujourd'hui, bien des plaies affectent ce gigantesque monument enfoui sous le palais et sous le quai, comme un de ces animaux antidéluviens dans les plâtres de Montmartre. Mais la plus grande, c'est d'être la conciergerie. Ce mot, on le comprend. Dans les premiers temps de la monarchie, les grands coupables, car les vilains, il faut tenir à cette orthographe qui laisse au mot sa signification de paysan, et les bourgeois, appartenant à des juridictions urbaines ou seigneuriales, les possesseurs des grands ou petits fiefs étaient amenés au roi et gardés à la conciergerie. Comme on saisissait peu de ces grands coupables, la conciergerie suffisait à la justice du roi. Il est difficile de savoir précisément l'emplacement de la primitive conciergerie. Néanmoins, comme les cuisines de Saint-Louis existent encore et forment aujourd'hui ce qu'on nomme la souricière, il est à présumer que la conciergerie primitive devait être située là où se trouvait avant 1825 la conciergerie judiciaire du Parlement, sous l'arcade à droite du grand escalier extérieur qui mène à la cour royale. De là, jusqu'en 1825, partirent les condamnés pour aller subir leur supplice. De là sortirent tous les grands criminels, toutes les victimes de la politique, la maréchale d'Ancre, comme la reine de France, Semblançay, comme Malesherbes, Damiens, comme Danton, Desrues, comme Castaing. Le cabinet de Fouquier-Tinville, le même que celui actuel du procureur du roi, se trouvait placé de manière à ce que l'accusateur public pût voir défiler dans leur charrette les gens que le tribunal révolutionnaire venait de condamner. Cet homme fait glaive pouvait ainsi donner un dernier coup d'œil à ses fournées. Depuis 1825, sous le ministère de M. de Peyronnet, un grand changement eut lieu dans le palais. Le vieux guichet de la conciergerie, où se passaient les cérémonies de l'écrou et de la toilette, fut fermé et transporté où il se trouve aujourd'hui, entre la tour de l'horloge et la tour Montgomery, dans une cour intérieure indiquée par une arcade. À gauche se trouve la souricière, à droite, le guichet. Les paniers à salade entrent dans cette cour assez irrégulière et peuvent y rester, y tourner avec facilité, s'y trouver en cas d'émeute protégée contre une tentative par la forte grille de l'arcade. Tandis qu'autrefois, ils n'avaient pas la moindre facilité pour manœuvrer dans l'étroit espace qui sépare le grand escalier extérieur de l'aile droite du palais. Aujourd'hui, la conciergerie, à peine suffisante pour les accusés, il y faudrait de la place pour 300 personnes, hommes et femmes, ne reçoit plus ni prévenus, ni détenus, excepté dans de rares occasions comme celle qui faisait amener Jacques Collin et Lucien. Tous ceux qui y sont prisonniers doivent comparaître en cour d'assises. Par exception, la magistrature y souffre les coupables de la haute société qui, déjà suffisamment déshonorés par un arrêt de cour d'assises, seraient punis au-delà des bornes s'ils subissaient leur peine à Melun ou à Poissy. Ouvrard préféra le séjour de la conciergerie à celui de Sainte-Pélagie. En ce moment, le notaire Léon, le prince de Bergue, y font leur temps de détention par une tolérance arbitraire mais pleine d'humanité. Généralement, les prévenus, soit pour aller en argot de palais à l'instruction, soit pour comparaître en police correctionnelle, sont versés par les paniers à salade directement à la souricière. La souricière, qui fait face au guichet, se compose d'une certaine quantité de cellules pratiquées dans les cuisines de Saint-Louis et où les prévenus, extraits de leur prison, attendent l'heure de la séance du tribunal ou l'arrivée de leur juge d'instruction. La souricière est bornée au nord par le quai, à l'est par le corps de garde de la garde municipale, à l'ouest par la cour de conciergerie et au midi par une immense salle voûtée, sans doute l'ancienne salle des festins, encore sans destination. Au-dessus de la souricière s'étend un corps de garde intérieur ayant vue par une croisée sur la cour de la conciergerie. Il est occupé par la gendarmerie départementale et l'escalier y aboutit. Quand l'heure du jugement sonne, les huissiers viennent faire l'appel des prévenus, les gendarmes descendent en nombre égal à celui des prévenus, chaque gendarme prend un prévenu sous le bras et ainsi accouplés, ils gravissent l'escalier, traversent le corps de garde et arrivent par des couloirs dans une pièce contiguë à la salle où siège la fameuse sixième chambre du tribunal à laquelle est dévolue l'audience de la police correctionnelle. Ce chemin est celui que prennent aussi les accusés pour aller de la conciergerie à la cour d'assises et pour en revenir. Dans la salle des pas perdus, entre la porte de la première chambre du tribunal de première instance et le perron qui mène à la sixième, on remarque immédiatement, en s'y promenant pour la première fois, une entrée sans porte, sans aucune décoration d'architecture, un trou carré vraiment ignoble. C'est par là que les juges, les avocats pénètrent dans ces couloirs, dans le corps de garde, descendent à la souricière et au guichet de la conciergerie. Tous les cabinets des juges d'instruction sont situés à différents étages dans cette partie du palais. On y parvient par d'affreux escaliers et un dédale où se perdent presque toujours ceux à qui le palais est inconnu. Les fenêtres de ces cabinets donnent les unes sur le quai, les autres sur la cour de la conciergerie. En 1830, quelques cabinets de juges d'instruction avaient vu sur la rue de la Barillerie. Ainsi, quand un panier à salade tourne à gauche dans la cour de la conciergerie, il amène des prévenus à la souricière. Quand il tourne à droite, il importe des accusés à la conciergerie. Ce fut donc de ce côté que le panier à salade où se trouvait Jacques Collin fut dirigé pour le déposer au guichet. Rien de plus formidable. Criminels ou visiteurs aperçoivent deux grilles en fer forgé séparées par un espace d'environ 6 pieds qui s'ouvrent toujours l'une après l'autre et à travers lesquelles tout est observé si scrupuleusement que les gens à qui le permis de visiter est accordé passent cette pièce à travers la grille avant que la clé ne grince dans la serrure. Les magistrats instructeurs, ceux du parquet eux-mêmes, n'entrent pas sans avoir été reconnus. Aussi, parler de la possibilité de communiquer ou de s'évader. Le directeur de la conciergerie aura sur les lèvres un sourire qui glacera le doute chez le romancier le plus téméraire dans ses entreprises contre la vraisemblance. On ne connaît dans les annales de la conciergerie que l'évasion de Lavalette, mais la certitude d'une auguste connivence, aujourd'hui prouvée, a diminué, sinon le dévouement de l'épouse, du moins le danger d'un insuccès. En jugeant sur les lieux de la nature des obstacles, les gens les plus amis du merveilleux reconnaîtront qu'en tout temps ces obstacles étaient ce qu'ils sont encore, invincibles. Aucune expression ne peut dépeindre la force des murailles et des voûtes, il faut les voir. Quoique le pavé de la cour soit en contrebas de celui du quai, lorsque vous franchissez le guichet, il faut encore descendre plusieurs marches pour arriver dans une immense salle voûtée dont les puissantes murailles sont ornées de colonnes magnifiques et sont flanquées de la tour Montgomery, qui fait partie aujourd'hui du logement du directeur de la conciergerie et de la tour d'argent qui sert de dortoir aux surveillants, guichetiers ou porte-clés, comme il vous plaira de les appeler. Le nombre de ces employés n'est pas aussi considérable qu'on peut l'imaginer. Ils sont 20. Leur dortoir, de même que leur coucher, ne diffère pas de celui dit de la pistole. Ce nom vient sans doute de ce que jadis les prisonniers donnaient une pistole par semaine pour ce logement, dont la nudité rappelle les froides mansardes que les grands hommes sans fortune commencent par habiter à Paris. À gauche, dans cette vaste salle d'entrée, se trouve le greffe de la conciergerie, espèce de bureau formé par des vitrages où siègent le directeur et son greffier, où sont les registres d'écrou. Là, le prévenu, l'accusé sont inscrits, décrits et fouillés. Là se décide la question du logement dont la solution dépend de la bourse du patient. En face du guichet de cette salle, on aperçoit une porte vitrée, celle d'un parloir où les parents et les avocats communiquent avec les accusés par un guichet à double grille en bois. Ce parloir tire son jour du préau, le lieu de promenade intérieure où les accusés respirent au grand air et font de l'exercice à des heures déterminées. cette grande salle éclairée par le jour, douteux de ses deux guichets, car l'unique croisée donnant sur la cour d'arrivée est entièrement prise par le greffe qui l'encadre, présente au regard une atmosphère et une lumière parfaitement en harmonie avec les images préconçues par l'imagination. C'est d'autant plus effrayant que parallèlement au tour d'argent et de Montgomery, vous apercevez ces cryptes mystérieuses, voûtées, formidables, sans lumière, qui tournent autour du parloir. C'est d'autant plus effrayant que parallèlement au tour d'argent et de Montgomery, vous apercevez ces cryptes mystérieuses, voûtées, formidables, sans lumière, qui tournent autour du parloir, qui mènent au cachot de la reine de Madame Élisabeth et aux cellules appelées les secrets. Ce dédale en pierre de taille est devenu le souterrain du palais de justice après avoir vu les fêtes de la royauté. De 1825 à 1832, ce fut dans cette immense salle, entre un gros poêle qui la chauffe et la première des deux grilles, que se faisait l'opération de la toilette. On ne passe pas encore sans frémir sur ces dalles qui ont reçu le choc et les confidences de tant de derniers regards.